Ce matin, je veux vous parler du secret pour une vie transformée par Dieu. C'est vrai qu'ils veulent avoir une vie transformée par Dieu. Souvent, quand on fait ce genre de déclaration, « Oui, amen, preach it, brother, let's go, on y va », on est tous d'accord, mais on est tous d'accord pour que Dieu nous transforme et que ça vienne juste de lui et que nous, on reste assis tranquillement. Vrai ? On ne va pas le dire, on n'ose pas, mais c'est un petit peu ça. Et le secret. Qui veut connaître ce secret ce matin ? Est-ce qu'il y en a qui veulent le connaître ? Je vous préviens, ce secret-là n'est pas pour tous. Ce secret-là n'est pas pour tous, parce que ce secret nécessite beaucoup de courage. Ce secret-là, une fois que tu le sais, ça prend beaucoup de courage. Et comme certains le savent, le courage, ce n'est pas avancer sans peur, c'est avancer malgré la peur. Le secret, c'est le courage d'arrêter de trouver des excuses. Bienvenue à Nouvelle-Vie Château-Gaspard. Le courage d'arrêter de trouver des excuses. Tu connais ces gens qui trouvent des excuses pour tout et n'importe quoi ? Pour absolument tout. Il y en a, ils sont tellement forts, ils sont créatifs. Il y en a, c'est tellement incroyable que franchement, des fois, je suis comme, bravo. Franchement, bravo. Cette excuse-là, elle est incroyable. Tu connais des gens comme ça qui trouvent des excuses pour tout ? Ouais ? Il y en a, ils sont forts. Et il y en a, ils disent, ouais, c'est moi. Ils trouvent des excuses pour tout, surtout pour expliquer leur retard. Il y en a, ils sont tellement avancés dans le domaine de trouver des excuses qu'ils invitent même Dieu dans leurs excuses. Ils font participer Dieu à leurs excuses. Voici un des rares articles qui parlait de Jésus à Pâques, qui est passé dans la presse. Une panne de métro et Jésus complique le retour à la maison. J'imagine la scène du gars qui rentre à la maison. Qu'est-ce que tu faisais, chérie ? T'étais où ? Écoute, tu ne me croiras pas, Jésus m'a bloqué la route. Bien sûr, c'est ça. Jésus m'a bloqué la route. Et je pense des fois, Jésus nous bloque la route, il nous arrête pour dire « Arrête tes excuses, viens prendre du temps avec moi. Arrête-toi un petit peu. » des excuses pour expliquer nos échecs. Ou des excuses pour expliquer le succès des autres. « Oh oui, mais lui, c'est parce que ça. Ah, mais elle, c'est parce que ça. Moi, tu comprends, c'est parce qu'il y a ça. » Et c'est compliqué pour moi. Oui, mais lui, il est riche. Oui, mais elle, elle est belle. Oui, mais lui, il est jeune. Oui, mais lui, il est en santé. Ah, mais lui est spirituel, c'est normal. Mais on voit juste une partie. Mais il y en a qui sont jeunes, mais qui n'ont pas d'argent. Beau, mais malade. Riche, mais seul. En santé, mais en deuil. On voit souvent juste une partie des choses. Et on explique les choses de ce qu'on voit. Mais c'est juste une partie. Je sais, vous allez me dire, moi, je connais quelqu'un qui est jeune, beau, riche, en santé et spirituel. Je sais, on est tous jaloux de Pasteur Florian. Je sais. Mais j'aime la Bible. J'aime la Bible parce qu'au-delà de son historicité, ce qui la rend crédible, c'est qu'elle est honnête. Elle est très transparente sur la faiblesse des hommes. Et alors que je faisais mon étude là-dessus, sur les excuses qu'on peut trouver, je réalisais à quel point les hommes que Dieu a voulu utiliser donnent presque tous des excuses à Dieu pour ne pas obéir. Presque tous. Et il y a vraiment beaucoup de losers dans la Bible. C'est rassurant pour nous. C'est rassurant pour nous. Si tu es un loser, non, lève pas ta main. Mais c'est rassurant. Et Dieu les a quand même utilisés. J'ai piqué le pep talk de Jérémie ce matin. Dieu les a quand même utilisés. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Jésus avait toutes les raisons de ne pas aller à la croix, mais il n'a pas cherché d'excuses. Il a pris ses responsabilités. Il a obéi à Dieu et il nous appelle à lui ressembler. Amen. On va lire un passage ce matin en Luc 14 et qui parle des excuses. Luc 14, versets 16 à 24, on va lire ensemble. Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, tout est prêt !» Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Le premier lui fit dire « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre encore dit « Je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. » Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Au bout d'un moment, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » Eh bien, lui dit le maître, « Va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. » Alors ceci est une parabole du grand manqué et ça explique le royaume de Dieu. Je vais amener le point sur les excuses. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les hommes et les femmes ont toujours trouvé des excuses pour ne pas faire certaines choses. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà donné des excuses vraiment mauvaises? Toi-même, quand tu lis, tu dis « Oh non, c'est mauvais, c'est mauvais. » Oh, mon imprimante ne fonctionne plus, c'est pour ça que je n'ai pas pu ramener ce que j'avais. Oh, la classique, tu sais que quand tu es aux études, « Oh, mon chien a mangé mon devoir. » Ça, c'était à l'époque quand il fallait imprimer. Maintenant, tu envoies par email, c'est bien plus simple. « Ah, oh, il y avait du trafic. » Non, ce n'est pas vrai, on est dimanche aujourd'hui. Ou quand tu ne veux pas aller quelque part et que tu as des enfants, tu fais « Oui, écoute, on ne pourra pas venir, les enfants sont malades. » « Ah, oh, pas de problème, restez là. » Oui, alors que les enfants vont très bien. Et on s'en sort avec ça. On est bon pour trouver des excuses. Certains sont champions du monde. On est bon pour se dédouaner. Et j'aimerais voir quelques citations sur les excuses que je trouve intéressantes. Première citation, « Les excuses sont les clous pour bâtir une maison pleine d'échecs. » Ouh, ça commence dur. La fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté. Et vous la connaissez, les chrétiens d'entre nous, on dit souvent « Oh, Dieu voulant, si Dieu veut. » Et on se cache derrière ça. Tellement facile. « Oh, si Dieu avait... » Oui, Dieu veut. Et toi, que fais-tu? Une autre. « Les excuses vident le pouvoir de votre vie. » Et une dernière de Derek Prince. « Quand vous faites des excuses, vous vous condamnez à rester là où vous êtes. » Est-ce qu'il y en a qui veulent avancer ce matin? Amen. Et on trouve des excuses pour tout. Pour nos retards, pour nos oublis, pour nos non-réponses aux textos. « Ah mince, je n'avais pas vu ton texto, mince. » Tu sais, tu l'as vu sur Messenger, mais... tu n'y vas pas dessus pour dire « Ah non, je ne l'ai pas encore lu. » Des excuses pour nos mensonges, des excuses pour notre désobéissance. Et on réfléchit même aux excuses à trouver. Moi, souvent, ça arrive, ma femme, elle arrive, tout ça, puis je fais « Ah, j'ai oublié de rentrer à la poubelle. » Et là, je suis en train de réfléchir quelle excuse je vais... Et est-ce qu'il y en a, vous vous visualisez comme ça, il y a quelque chose et vous êtes en train déjà de réfléchir, de dire quelle excuse je pourrais trouver à ça vu que je ne peux pas sortir de cette impasse. Ça vous arrive? On réfléchit à nos excuses parce qu'on sait qu'on va se faire pogner. Il y a un truc et c'est quoi, vite, réfléchis. Et on est fort dans ces moments-là. On réfléchit à toutes sortes d'excuses. Et la parole dit « Cherchez et vous trouverez ». Et je vous assure, si vous cherchez des excuses, vous allez en trouver. Je vous assure, c'est sûr et certain. J'aime cette citation de George Washington qui dit « 99% des échecs proviennent des gens qui ont comme habitude de trouver des excuses. » Pas que c'est fini, l'amour de Jésus, c'était la semaine dernière. 80% des échecs proviennent des gens qui ont comme habitude de trouver des excuses. Quelles sont tes excuses pour ne pas obéir à ce que Dieu te demande? Quelles sont tes excuses pour ne pas obéir à ce que Dieu a placé sur ta vie? Quelle est la chose que tu n'arrêtes pas de remettre et que tu remets à deux mains continuellement? Et comprenez-moi bien, ce message, il est premièrement pour moi. Il est premièrement pour moi. Quelles sont tes excuses? On va voir certaines excuses qu'on donne à Dieu. La première excuse, c'est l'excuse du trop et du pas assez. L'excuse du trop et du pas assez. Dans Juges 6, l'ange de l'Éternel... apparu à Gédéon. On parle de l'histoire de Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abat-il sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui. Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua Hashtag excuse. De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Gédéon, le plus petit de la plus petite famille de la plus petite tribu, On aime se diminuer, parfois de la fausse humilité. Oh, tu sais, moi je ne peux pas, moi je... Non, non, mais grâce, il chante bien, ça va, mais moi, je... Non, je... On aime à se diminuer. Ça nous défausse. On se donne des excuses, de la fausse humilité, le trop et le pas assez. Oh, mais je suis trop jeune pour ça, je peux pas. Oh, moi, je suis trop vieux, je suis trop pauvre, j'ai pas assez de contacts, j'ai pas assez de réseaux, j'ai pas assez d'argent, oh, j'ai pas assez de talent. C'est vous, oui, mais moi, j'ai pas assez de talent. Ah, je suis désolé, mais j'ai pas assez de temps. Ah, mais moi, je peux pas. Ah, mais moi, je suis marié, j'ai des enfants, tu sais, c'est compliqué. J'ai pas assez de temps, mais j'ai 45 minutes pour scroller sur mon téléphone. Je plaide coupable. Comme dirait Pasteur Marc, comment, laissez-moi pas tout seul n'avant. Y en a-tu comme ça qui perdent leur temps sur. Ouais? Ok. J'ai pas assez d'argent, mais j'ai de l'argent pour m'acheter des trucs. Mais pas pour la dîme et les offrandes. J'ai remarqué dans la vie, on a de l'argent pour ce qu'on veut. Avez-vous remarqué ça? On a de l'argent. On n'a pas d'argent et tout à coup, il y a un super rabais sur quelque chose et là, ah oui, non, mais ça vaut vraiment le coup. Et là, tout à coup, c'est comme si l'argent apparaît comme par magie. C'est incroyable. Merci, la carte de crédit. On a du temps et de l'argent pour ce qu'on veut. Toutes les raisons qu'on trouve, c'est fou. Les excuses pour lesquelles tu ne peux pas, car tu es trop ou pas assez, ne sont pas valides. Toutes les excuses où tu dis « Oh, je suis trop ci » ou « Je suis pas assez ça » ne sont pas valides devant Dieu. Car si tu es trop ou pas assez, c'est parfait. Tu es la bonne personne. Si tu es trop ça ou pas assez ça, tu es la bonne personne. Tu dis que tu ne peux pas, tu as raison. Mais Dieu peut. Dieu peut. Dieu a dit à Moïse « Va ». Avec toutes ses incapacités, toutes les choses mauvaises qu'il avait faites, il a tué un homme, il s'est enfui, il était en cavale, il s'est caché pendant 40 ans et il a commencé à servir Dieu à 80 ans finalement. Oui, parce qu'on voit les films puis on a l'impression qu'il est jeune. Mais non, il y en a, t'as la retraite et tu dis c'est bon, moi j'ai fait mon temps, c'est fini, allez-y les jeunes, vous êtes bons. Non, Dieu t'appelle à prendre ta place. Dieu t'appelle à prendre ta place. Mais c'est la pensée de notre société occidentale. Tu te diras, ben, y a pas de retraite avec Dieu. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Quelle est ton excuse? Si tu as 80, bonne nouvelle, tu fais juste commencer. C'est incroyable. Tu fais juste commencer si tu as 80. Trop vieux n'est pas une excuse valide. Mais il y a l'autre trop. Car pour certains, ton excuse, c'est de dire, je suis trop bon pour ça, je perds mon temps. Attends, j'ai un PhD, tu crois vraiment que je vais être placeur à Nouvelle-Ville-Châteauguay? Je suis trop bon pour ça. Je suis trop à un autre niveau pour faire des choses simples, entre guillemets. Moi, j'ai un doctorat, je suis directeur financier. Franchement, j'ai autre chose à faire que le ménage. Effectivement, je suis d'accord avec toi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps à rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Et tant que tu ne rentreras pas dans les choses que Dieu a prévues pour toi, les choses que Dieu avait en arrière ne pourront pas se débloquer. Est-ce que vous me suivez ce matin? Tu es en train de perdre ton temps dans ta marche avec Dieu et dans la transformation que Dieu veut faire avec toi. Commence là où tu es. Arrête de trouver des excuses parce que Dieu a plus pour toi ce matin. Dieu a plus. Quelles sont les excuses que tu te donnes pour dire que tu ne peux pas réussir? Quelles sont les excuses que tu te donnes pour ne pas t'améliorer, pour être une meilleure personne, pour obéir à Dieu? Quelles sont les excuses que tu te donnes pour obéir à ce que Dieu te demande, pour passer plus de temps dans sa présence, pour le servir? Quelles sont tes excuses? Une autre excuse, c'est l'excuse de la victime. Vous la connaissez, celle-là? Elle est très forte. Elle est très forte et j'ai l'impression de plus en plus dans notre monde où on s'écoute de plus en plus, puis comprenez-moi bien, il n'y a pas de problème à s'écouter et à comprendre ce qu'on vit. Mais on met tellement l'emphase dessus qu'on reste dans cette position-là. Jean 5. C'est la piscine de Bethesda, pour ceux qui connaissent. Jean 5, versets 5 à 9. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. N'ayons pas une mentalité de victime à blâmer les autres. Les gens qui continuellement blâment les autres n'avancent pas dans leur vie. Tu peux y aller, tu peux regarder. Hein. Tu peux faire une étude exhaustive des gens, c'est souvent ça qui se passe. N'ayons pas cette mentalité-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être victime de quelque chose ou de quelqu'un, comprenez-moi bien. On peut être totalement victime de quelque chose ou de quelqu'un, et tu as sûrement raison, c'est sûrement vrai. Mais il ne faut pas que ça te définisse. Ça t'est arrivé, certes, mais c'est pas ça qui doit te définir. Ah, oh, mais tu sais pas comment j'ai grandi, moi, tu connais pas mon arrière-plan, tu connais pas mes circonstances, Stephen, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Oui, c'est vrai. Et mais moi aussi, tu ne sais pas. Il y a plein de gens qui ont l'air en chef. Si tu savais tout ce qui est en arrière. Si tu savais. Et même leurs circonstances sont pires que les tiennes. L'idée n'est pas de nier ce que tu as vécu, mais l'idée n'est pas non plus de te cacher indéfiniment derrière ce que tu as vécu. Je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Vous le connaissez certainement, ça là. Je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait. Puis oui, c'est vrai, c'est arrivé. Puis oui, c'est dur. Mais je suis responsable de ce que j'en fais. Est-ce que je le laisse là? Puis il y en a, ce qu'on leur a fait, c'est comme on dirait un feu de camp. On dirait qu'ils mettent du bois pour le tenir toujours allumé. Est-ce que vous me suivez? Laisse-le mourir. Oui, ça va continuer à brûler, puis ça va... mais tranquillement, ça va devenir des braises et ça va s'éteindre. Pour certains, c'est tellement devenu ton identité que lorsque Jésus te propose la solution, tu n'es pas sûr de la vouloir. Tu n'es pas sûr de la vouloir parce que tu ne pourras plus te cacher derrière tes excuses. C'est facile, c'est rassurant de nous cacher derrière nos excuses. Et je crois que c'est pour ça que Jésus lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il ne lui a pas dit « Je vais le faire, que veux-tu » Es-tu sûr que tu veux vraiment que je fasse ça? Parce que tu ne pourras plus te cacher derrière les autres. Tu ne pourras plus blâmer les autres. Est-ce que tu es sûr que tu veux? Oui, je le veux. Ok. Il y en a certains, tu as organisé ton monde, ta vie, ta foi, même autour de tes excuses. Mais Dieu t'appelle à devenir responsable ce matin. Dieu t'appelle à devenir responsable. Oh, mais moi, je ne sers plus parce qu'on m'a blessé. C'est vrai, c'est possible. Mais Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi encore et encore. La vie semble parfois injuste, oui, c'est vrai. Mais je te dirais, laisse Dieu te guérir. Car les blessures et les plaies d'aujourd'hui sont les cicatrices de demain. Et tu pourras témoigner de ce que Dieu a fait. Mais certains laissent leurs blessures s'infecter. Leurs blessures spirituelles, leurs blessures morales, tout ce que tu veux. Ils laissent leurs blessures s'infecter. Et même souvent, la blessure devient pire. Il y en a qui ont vécu quelque chose il y a 20 ans et tu as l'impression que tu touches comme ça. Puis... Est-ce que vous voyez? Tout ça parce qu'ils ont laissé leurs blessures s'infecter, puis ils restent là-dedans, puis continuellement, ils se cachent en arrière de ça et ça devient leur identité. Mais Dieu dit non, ce n'est pas ça ton identité. Ton identité, c'est que tu es un fils de Dieu, c'est que tu es ma fille, c'est que j'ai un plan de paix et de bonheur pour toi. Rentre là-dedans. Dieu a plus pour toi. Alors laisse Dieu te guérir. Et si tu es dans le deuil ce matin de quelque chose, Dieu veut faire une œuvre avec toi. Dieu veut faire une œuvre. Il veut te faire du bien et te guérir. Et il va t'aider. Mais la seule chose avec laquelle il ne pourra jamais t'aider, c'est tes excuses. Ça, c'est toi qui les maîtrises. C'est toi qui les gères. L'autre excuse, c'est l'excuse de blâmer les autres. C'est tellement plus facile de blâmer les autres que d'être honnête avec soi-même en temps, et même en tant que leader, aussi souvent les leaders. J'ai été leader pendant de longues années et c'est tentant des fois quand quelque chose ne marche pas de « oui, mais c'est parce qu'un tel qui n'a pas fait son boulot ». Non, prends tes responsabilités. Si ça ne marche pas, ben check-toi, regarde-toi. Facile de blâmer les autres. Et je le sais parce que moi, j'aime ça. C'est pas que j'aime ça, c'est que je remarque dans ma vie que ça vient facilement. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'essaie de « oui, mais c'est pas… » Naturellement, ça vient naturellement, on n'a pas à se forcer. C'est rare de dire « oui, oui, bien sûr, c'est moi, j'assume totalement ». C'est extrêmement rare. Ça vient tellement naturellement. Et c'est un combat. C'est un combat qu'on a à livrer. Mais c'est rassurant, les excuses, où je mets la faute sur les autres. C'est à cause de mes parents. Ah, elle est excellente, celle-là. C'est à cause de mes parents. C'est rassurant, les excuses. Mais ça nous garde dans la misère et la médiocrité. Et l'ennemi de nos âmes est là à nous dire « c'est bien correct tes excuses, t'as raison. » Parce qu'il sait très bien que tant qu'on garde nos excuses, on n'avancera pas. Et il le sait. Il dit, t'as bien, écoute pas le pasteur en avant, t'as raison. L'ennemi va te faire toujours entendre ce que t'as envie d'entendre. S'il peut te garder là où tu es, parce que tu es inoffensif. Mais Dieu a plus pour toi. Et comprenez-moi bien ce message, c'est pas un message de culpabilité de dire, oh c'est vrai, non, du tout. C'est dire, oui c'est vrai, je reconnais, Où sont les excuses dans ma vie? Que je les mette de côté et que je puisse avancer pour ce que Dieu a pour moi, pour la vie de transformation que Dieu a pour moi. Amen? Vous êtes toujours là ce matin? Good. Mais l'affaire, c'est qu'on s'en sort par des pirouettes spirituelles. Oh, mais de toute façon, Dieu, lui, il sait. Vous la connaissez, celle-là? Oh, Dieu sait, Dieu sait. Oui, il sait, il te dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu n'avances pas? L'homme est couché depuis 38 ans et il dépend continuellement des autres. Ce qui fait que s'il ne fait pas quelque chose, c'est de la faute des autres. Et c'est devenu une deuxième nature pour lui. C'est la faute de mes parents, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de mon patron, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de Florian aussi. C'est la faute des autres, toujours la faute des autres. C'est la faute de ma femme. C'est la faute de mon mari, qu'est-ce que je te dise? Moi, mon mariage, ça ne va pas, mais c'est de la faute de ma femme. Elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Oh, si tu la connaissais comme je la connais, tu saurais que ma femme, elle est vraiment charmante. Que s'est-il passé? Ma femme, c'est la plus charmante du monde. On a besoin de prendre nos responsabilités pour nos couples. On a besoin de prendre nos responsabilités pour nos couples, pour nos mariages. J'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé de Darren Hardy. Ça s'appelle « L'effet cumulé », pour ceux que ça intéresse. Je trouve très intéressant. Et Hardy a assisté à un séminaire sur la responsabilité personnelle. Lorsqu'il a découvert un concept étonnant de relation, l'orateur a posé une question simple. Quel pourcentage de responsabilité partagée avez-vous pour faire fonctionner une relation? D'après vous? Ah ouais, mais zéro, c'est sûr qu'on ne va pas aller loin avec ça. Zéro, non, c'est pas moi, j'ai zéro. Hardy, comme tout autre être humain à sa place, croyait connaître la réponse. Moitié-moitié a-t-il lâché. 50-50. Qui est d'accord avec ça? Il y en a, ils sont devenus rapides, ils font. Non, moi, je ne me prononce pas. Moi, je... Bien sûr, c'est l'approche raisonnable. Une relation ne peut fonctionner que si les deux parties assument la même responsabilité. Si une personne fait beaucoup plus que l'autre, la relation est vouée à l'échec. Vraiment? D'autres participants ont partagé leur opinion géniale, telle que 49-51. Ah, je prends 51. Allez. Ou 80-20. Mais évidemment, ça ne les a pas rapprochés de la vérité. Alors l'orateur a révélé la réponse. En lettres noires, il écrit un gros 100/0 sur le chevalet en avant. 100%. Donnez et n'attendez rien en retour. Je crois que c'est une clé pour nos couples. Donnez et n'attendez rien en retour. Et allez, on va faire. Ouais. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a donné, il n'attend rien en retour. Le sacrifice, il l'a fait. Tout en sachant que chaque personne est libre de dire non. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Je répète, ça peut faire du bien. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Et toutes les femmes font, ah, t'as vu, qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Et une fois qu'on a réfléchi, la puissance de ce concept devient évidente. Ce n'est que si vous assumez la responsabilité à 100% de vos actes que vous pourrez favoriser une relation stable. Attendre de l'autre personne, votre partenaire, ami, coéquipier, peu importe, qu'il fasse 50% du travail et voit l'échec. Pourquoi? Parce que la relation se construit sur des attentes, donc un contrat. Et des attentes irréalistes nuisent à notre bonheur, parce qu'on voit seulement les attentes qui ne sont pas rencontrées. Vous ne pensiez pas qu'on allait parler de couple ce matin? Vous ne voudrez jamais faire un effort supplémentaire pour faire quelque chose d'autre. Tout ce que vous rechercherez, ce sont des occasions de blâmer et de vous dissuader des choses dont vous pourriez être responsable. Vous tenez des comptes de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Oui, mais rappelle-toi, la semaine dernière, tu devais faire ça. C'est pas ça. C'est plus que ça. Prenons 100% de la responsabilité. Mais si vous assumez toujours l'entière responsabilité de vos actes, il dit, vous n'attendez pas que l'autre améliore votre relation. Au lieu de cela, vous prenez votre vie en main. Vous devenez le capitaine du bateau. De votre vie. Vous prenez le volant. Pourquoi tant de gens assument-ils que la responsabilité est partagée à 50-50? Parce que c'est facile. C'est facile. C'est facile de blâmer quelqu'un pour vos sentiments. J'entends tellement dans les relations, on entend « Oh, il me rendait plus heureux. Il me rendait plus heureuse. » Tellement facile. C'est facile. C'est facile de blâmer quelqu'un pour vos sentiments. Nos mauvaises excuses nous gardent nos responsabilités et nous croyons qu'elles nous déchargent aussi de nos responsabilités. On se donne tout plein d'excuses pour nous rassurer nous-mêmes, pour mettre dans le seau de la culpabilité de « Ok, c'est bon, ça va, je suis déculpabilisé. Oui, mais t'as vu aussi, c'est normal. » Dieu cherche des hommes, des femmes, droits, intègres, honnêtes avec eux-mêmes et avec Dieu, persévérants et qui ne se défilent pas. Faisons partie de ces gens-là. Des hommes et des femmes qui assument leurs responsabilités. J'ai vu ça en anglais, je trouvais ça intéressant. Vous savez, le mot « responsabilité » en anglais, c'est « responsibility yeah. ». Et il y a quelqu'un qui disait, ben en fait, c'est « the ability to give a response », l'habileté de donner une réponse. Et c'est intéressant, l'habileté de répondre. L'habileté de répondre à quoi? De répondre de nos paroles, de répondre de nos actions, de répondre de l'appel de Dieu et du mandat que Dieu a mis sur ta vie. Est-ce que tu es capable de répondre à ça? Et je trouve ça, moi, ça m'a mis une autre, oh waouh, j'avais jamais vu ça comme ça, responsabilité. L'habileté de répondre. Répondre de ce que Dieu a placé sur nos vies. Car parfois, on ne prend pas la responsabilité, on se défausse sur Dieu. Parfois, on se dit, oh, mais si Dieu veut vraiment que je sois et que je devienne tel ou tel, alors il permettra, alors il fera. Vous la connaissez, celle-là? Il permettra, il fera tout. Ah, mais non, entre en action et Dieu fera. Entre en action et Dieu fera. C'est comme si des fois, j'ai l'impression qu'on attend que Dieu nous place là, et tant que c'est ça le plan de Dieu, ça c'est nous, et on ne fait rien, et Dieu fait. Et là, il en fait. Oh. Non. Entre en action et Dieu fera. Il sera avec toi. Dieu utilise les gens en mouvement. Je me rappelle quand quelqu'un qui voulait devenir pasteur, ça faisait 20 ans, il était là. Et je ne sais pas ce qu'il attendait. C'est comme, ouais, il était déçu, il était frustré. Il y a beaucoup de chrétiens frustrés dans leur vie chrétienne parce qu'ils sont immobiles. Ils n'ont pas compris que la foi, c'est quelque chose qui se vivait, qui était en action. Et ils sont là, ils attendent. Ils sont assis. Puis... Et qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas, mais j'attends. Je ne sais pas, mais j'attends. Et cette personne-là, c'était triste à voir. Ça faisait, la personne avait 50 ans, ça faisait 20 ans qu'elle avait reçu un appel. Mais est-ce que tu vas à l'école biblique? Est-ce que tu fais quelque chose? Non, mais je ne sais pas. Comme s'il attendait un ange qui arrive et fait « Stephen, c'est ton tour. » Non, entre en action. Entre en action. Let's go, vas-y. Parce que les excuses ne fonctionnent pas avec Dieu. Je suis désolé, mais les excuses ne fonctionnent pas avec Dieu. Les excuses ne fonctionnent pas avec lui. Il n'est pas intéressé par nos excuses douteuses. Il n'est pas du tout intéressé. Et on voit à plusieurs moments, même avec Ananias, quand Dieu demande à Ananias d'aller voir Paul, qui est un terroriste. On en avait déjà parlé, il me semble, une fois ici. Acte 9, 13. « Mais Seigneur, réplique Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. » Littéralement, Jésus est devant lui. Jésus lui apparaît littéralement et lui dit « Non, mais attends, laisse-moi te trouver des excuses parce que... » Regarde tout ce qu'il a fait. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Dieu ne répond pas à tes excuses. Dieu ne répond pas à nos excuses. Et vous pouvez le voir plusieurs fois dans la parole de Dieu. Dieu ne s'arrête pas. Il ne dit pas, oui, tu as raison, on devrait en discuter. Non, va. Il te laisse dire tes excuses. Et en gros, il te dit, t'as fini? Ok, maintenant vas-y. Et on sourit, mais lisez la parole. Je vous assure, à chaque fois, c'est ça. Il ne répond pas. Va, car j'ai choisi cet homme. La même chose avec le boiteux de la piscine. Jésus lui dit, lève-toi. En fait, si vous lisez le texte, vous remarquerez que Jésus interrompt le boiteux. Il lui dit, allez, arrête ta... et avance. Lève-toi. Lève-toi. Et comprenez-moi bien, il ne fait pas une série de messages de 2 mois intitulés « Nous allons avoir une série, lève-toi ». Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi se lever. La semaine prochaine, comment se lever. Et surtout, ne manquez pas ça dans 3 semaines avec Stéphane Hillard, les 3 pas pour bien se lever. Non, lève-toi maintenant, de suite. C'est pas une affaire de série ou peu importe, c'est lève-toi. Pas le mois prochain, je vais lire ma Bible. Pas la semaine prochaine, je vais faire partie d'un groupe, m'impliquer. Peut-être la semaine prochaine, maintenant. Pas d'excuses. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Stop, stop aux excuses. J'aimerais demander aux musiciens de bien vouloir avancer, s'il vous plaît. Dieu veut rien savoir de nos excuses, comme avec les enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants ici? Tu sais, quand les enfants viennent te voir et font « Oui, mais c'est parce que... » ouais, va dans ta chambre. On les connaît, les excuses. « Ouais, mais c'est parce que, en fait... » Mais en fait, on ressemble à la même chose. On dit, ouais, mais Seigneur, tu comprends, c'est parce qu'en fait, mon collègue, ouais, va. C'est la même chose. Dieu n'est pas intéressé par nos excuses. Il ne veut rien savoir de nos excuses. Je me demande quelles sont tes excuses en ce moment. Quelles sont tes excuses en ce moment pour ne pas rentrer pleinement dans les plans que Dieu a pour toi? Quelles sont les excuses auxquelles tu essaies de te faire croire toi-même? Quelles sont les excuses pour ta vie, pour ta famille, pour ton travail, pour ton entreprise, pour ton ministère, pour lire la parole de Dieu, pour prendre du temps avec Dieu? Quelles sont tes excuses? Prends tes responsabilités et agis. Prends tes responsabilités et agis. C'est un qui veut prendre leurs responsabilités ce matin. C'est-à-dire, je veux juste laisser les excuses. Prends tes responsabilités. Et Dieu a fait la même chose avec Moïse. Alors que Moïse lui dit, ouais, mais Seigneur, je parle pas assez bien, je suis pas la bonne personne. Va libérer mon peuple. Va libérer mon peuple. Et il répond, je peux pas, je parle mal. Va. Peu importe ce qu'il te manque, Dieu va t'aider. Il va être avec toi, il va te donner ce dont tu as besoin. Il va te donner ce dont tu as besoin. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'excuses devant Dieu. C'est parce que Dieu a tout pour nous. Et si Dieu est avec toi, que sa faveur est avec toi, tu as plus qu'assez. Moïse est envoyé par Dieu pour libérer son peuple, il trouve des excuses. Il se disqualifiait lui-même. Il n'était pas sûr de ses capacités. Et sûrement a raison. Mais Dieu rappelle à Moïse que c'est Dieu qui rend capable. Et qu'il sera à ses côtés alors qu'il sera en route, qu'il sera en chemin. Les excuses t'empêchent de grandir, t'empêchent de te développer. Et la vérité, c'est qu'il n'y a aucune excuse valide aux yeux de Dieu. Tu dis, oh, il va comprendre, oui, mais il sait bien que pas d'excuse valide avec Dieu. Combien? Aucune. Aucune excuse. Tu peux blâmer l'école, tes enseignants, tes parents, l'église, ton pasteur, ton boss, ta femme, qui tu veux en fait. Et Dieu dit, qui t'a donné la capacité? Qui t'a permis d'avoir ce job? Qui te donne la capacité de vivre et de respirer? Qui te donne le souffle de vie? C'est moi. Aucune excuse. Et j'aime la simplicité de Dieu. Va, fais-le. Just do it. Just do it. Fais-le. Go. Et même le monde sait que les excuses ne servent à rien. Et avec Dieu encore moins. Pas d'excuses. Mais Dieu sait que j'ai pas beaucoup. Pas d'excuses. Oui, mais Dieu sait que j'ai pas... Pas d'excuses. Plus d'excuses. Aucune. Tu peux donner des excuses aux gens et peut-être que ça marche, ou même à toi-même. Mais l'affaire, c'est que même si tu donnes des excuses aux gens, à eux, tu ne leur rendras pas des comptes. Quand on va arriver au ciel devant Dieu, les excuses ne nous serviront plus de rien. Oui, mais Seigneur, non. Une chose est sûre, on n'a pas d'excuses devant Dieu. On n'a aucune excuse. Dieu désire de faire de nous des hommes et des femmes responsables, matures, courageux. Est-ce qu'il y a des courageux ce matin? Qui ne se cachent pas derrière des excuses? Nous n'avons pas l'excuse de dire « C'est bien, mais je ne pense pas être cette personne. Je ne suis pas cette personne, moi. » Mais ce n'est pas à propos de toi. Ça n'a jamais été à propos de toi. C'est à propos de ce que Dieu a accompli à la croix. C'est à propos de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut faire au travers de toi. Et c'est ça la beauté de la chose. Ce n'est pas à propos de ce que tu penses de toi. C'est à propos de ce qu'il dit de toi. Tu es mon enfant. J'ai placé un grand trésor en toi. Je vais me servir de toi. Arrête tes excuses. Ah, mais moi, je peux pas, j'en suis incapable. Oui, et t'as raison. T'as raison, t'es incapable. Mais que nous dit Philippiens 4:13? Je suis capable de tout par celui qui me rend fort. Je suis capable de tout. Pas d'excuses. Je suis capable de tout par celui qui me rend fort. Aucune excuse n'est valable devant Dieu. Aucune excuse n'est acceptable. Non, parce que Dieu est un tyran. Tu peux m'écouter ce matin et dire, ok, je pense que t'es un peu rough, Stéphane, c'est dans nous un peu d'amour, tu sais qu'on puisse aller. Non, non. Dieu n'est pas un tyran. Au contraire, on n'a aucune excuse parce qu'il est bon. On n'a aucune excuse parce que justement Dieu est un Dieu bon. Car il nous donne tout ce dont on a besoin. Il a tout donné à la croix. Il nous donne son amour, sa joie, sa paix, sa consolation, sa guérison, sa force, son courage, sa puissance, son autorité. Il te donne des frères et des sœurs, il te donne une famille. En fait, on n'a aucune excuse parce que Dieu est trop bon. On n'a aucune excuse parce qu'il est bon. Tu as tout même si tu n'as rien. Parce que Jésus plus rien égale tout. Jésus plus rien égale tout. Il y a tout. Il y a tout ce que tu as besoin en Dieu. Tout ce que tu as besoin. Alors arrête de trouver des excuses. Et si tu as besoin de guérison, viens chercher ta guérison. Viens chercher ta guérison. Est-ce qu'on pourrait se lever ce matin en terminant et juste nous remettre devant Dieu? Viens chercher ce que tu as besoin et avance. Viens chercher une parole pour toi. Viens chercher l'amour que Dieu a pour toi. Viens chercher ce que tu as besoin. Et même si tu es loin de Dieu et tu dis, écoute, je t'écoute Stéphane, puis c'est bon, mais moi, si tu savais ma vie là, franchement, j'ai honte, je suis dans le péché, je suis dans ça, je suis dans telle affaire, j'ose même pas le dire. Même toi, tu n'as aucune excuse. Parce que Dieu a les bras grands ouverts vers toi ce matin. Il dit, je suis là pour toi, c'est pas grave, viens, viens comme tu es. Viens comme tu es. Parce que ma grâce est aussi pour toi. Parce que mes plans sont aussi pour toi. Peu importe ta situation, Dieu a tout accompli. T'accomplis à la croix. Viens chercher ce que tu as besoin et avance. Va de l'avant et deviens pleinement ce que Dieu t'appelle à être. Tu n'as qu'une vie à vivre. YOLO! You only live once! Eh bien, justement, est-ce qu'on ne vivrait pas une vie sans excuses? La vie est trop courte. La vie est trop courte pour vivre avec des excuses. Alors, est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ce matin? J'aimerais nous guider dans un moment de prière avant qu'on chante et qu'on puisse se consacrer à Dieu. J'ai vraiment un cœur, et moi le premier, comprenez-moi bien, moi le premier. Je suis tellement un gars qui se trouve des excuses. Et de dire, Seigneur, je viens à toi ce matin. Je dépose mes excuses à tes pieds. Il y en a, tu as besoin d'amener tes fardeaux à Jésus. Il y en a, tu as besoin d'amener tes péchés à Jésus. Il y en a, tu as besoin d'amener tes excuses à Jésus. Et de les déposer au pied de la croix. Peut-être certains, ce matin, tu as besoin de demander pardon. Seigneur, je te demande pardon parce que pendant trop longtemps, je t'ai donné 1000 excuses de pourquoi je ne ferais pas ça. De pourquoi je ne parlerais pas à mon collègue de travail, de ta puissance à la croix, de pourquoi je ne fais pas ça, de pourquoi je ne lis pas ma Bible et je trouve des excuses parce que, pour tout un tas de raisons, Seigneur, je veux mettre mes excuses de côté ce matin. Et je sais que tu m'accueilles dans ta grâce parce que tu es un Dieu bon. Tu ne me culpabilises pas. Tu n'es pas là avec ta main pesante, non. Tu me tends la main et tu me dis, viens, laisse tes excuses. Et allons dans la vie pleine et entière que j'ai pour toi. Je veux te transformer. J'ai des plans pour toi. Si tu peux juste laisser tes excuses. Et alors que demain, c'est l'éclipse solaire. Il y en a ce qu'on fait, c'est alors que la lune empêche le soleil de briller sur la terre. Nos excuses passent devant la lumière de Dieu. Et empêchent de nous illuminer, de nous transformer. Est-ce que vous me suivez ce matin? Laisse faire l'éclipse, enlève la lune, enlève tes excuses et laisse Dieu pleinement briller sur ta vie, sur ta famille, sur ce qu'il a pour toi. Parce qu'il y en a ce matin qui dit, moi je veux laisser mes excuses au pied de la croix ce matin, je veux te les remettre et je veux me consacrer à toi Seigneur, je veux me consacrer à toi. Seigneur Jésus, merci pour ce matin, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, merci parce que ta parole est vraie, elle est crédible, Seigneur, parce que Seigneur, il n'y a rien qui est caché. Les hommes de Dieu, même les plus puissants, même Moïse, avaient des excuses, Seigneur. Et nous, on a des excuses aussi. Seigneur, on vient devant toi ce matin et on dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes excuses. Seigneur, je n'ai pas de raison d'avoir d'excuses. Tu as tout fait, tu as tout accompli pour moi. Puis tu as tout en abondance, ta joie, ta paix, ta consolation, ta guérison, j'ai tout en toi. Seigneur, viens me changer, viens me transformer. Viens faire une œuvre que moi je ne peux pas faire. Mais Seigneur, je fais ce pas-là et je m'avance devant toi et je mets mes excuses de côté pour vivre pleinement la vie que tu as pour moi. Alors est-ce qu'on pourrait chanter ce matin et se consacrer à Dieu de dire, Seigneur, me voici, je me donne tout entier. Un chant de consécration. Je laisse des excuses de côté et je dis, Seigneur, prends ma vie pleinement. Maintenant, est-ce qu'il y en a ce matin qui disent, moi je veux laisser les excuses de côté? Yes? Je lève ma main, moi le premier. Dire, Seigneur, prends toute la place. Parce que je veux voir la pleine transformation que tu as pour ma vie. Et je vous assure, vous allez être surpris. Dieu va faire de grandes choses avec vous. Parce que Dieu est un grand Dieu de bonté, de miracles et de puissance. Amen. Alors chantons ce matin de tout notre cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia, Seigneur.